Europe 1.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Bienvenue à tous et bonjour à vous. Deux invités pour ce grand rendez-vous présidentiel à partir de 10h30. Nous recevrons Marion Maréchal, soutien d'Éric Zemmour. Les équipes du candidat de Reconquête veulent encore croire à une qualification au second tour, malgré la très bonne résistance de Marine Le Pen. On en parlera. Et puis, il faudra aussi compter avec la bonne dynamique de Jean-Luc Mélenchon. Et justement, il est un fidèle du candidat de la France Insoumise, notre premier invité ce dimanche, Adrien Quatennens. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être là. Bienvenue à vous. Sondage, dernière ligne droite avant le premier tour programme, bien sûr. Nous allons évoquer tous ces sujets. Mais tout d'abord, Adrien Quatennens, ce matin, on l'a vu dans nos images et sur Europe 1, les bombardements s'intensifient en Ukraine. Les forces russes sont entrées dans Mariupol. Malgré tout, le président ukrainien Zelensky dit qu'il est temps de se réunir avec la Russie pour parler de paix. Si dans quelques semaines, Adrien Quatennens, quelques jours, on ne sait pas, malgré la situation, il y a quand même un cessez-le-feu, la Russie pourrait-elle, selon vous, réintégrer le concert de nations, ou alors est-ce que Poutine est définitivement au banc de ces nations ?
En tout cas, une chose est sûre, et je pense que beaucoup le disent, même s'il y a certains discours qui, franchement, parfois pourraient nous amener à la guerre totale. Mais nous, ce que nous disons, c'est qu'entre la guerre totale, entre puissance nucléaire et la diplomatie, il n'y a pas d'alternative. Et donc, tout doit aller à la diplomatie. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas simplement de le décréter. On voit qu'à l'heure où l'on se parle, Vladimir Poutine poursuit ses bombardements et le choix détestable qu'il a fait de faire revenir sur le vieux continent un mode de règlement des conflits qu'on croyait révolu, la guerre. Donc, il faut accroître la pression sur lui pour l'isoler. Et pour cela, nous pensons que ça passe par un accroissement des sanctions ciblant les oligarques autour de Vladimir Poutine. L'économiste Thomas Piketty parlait de 0,02% de la population russe qui a un patrimoine de plus de 10 millions d'euros immobiliers et financiers. Ce sont les gens qui font en quelque sorte le pouvoir de Vladimir Poutine. C'est eux qu'il faut donc frapper au portefeuille pour l'isoler et le pousser à revenir à la table des discussions pour faire en sorte qu'on ait en effet un cessez-le-feu, le retrait des troupes russes d'Ukraine où elles n'ont rien à faire, et qu'en effet, on puisse se mettre autour d'une table pour trouver une issue diplomatique. Je note d'ailleurs que la question du statut neutre de l'Ukraine, qui a d'ailleurs été mise sur la table par le président Zelensky à un moment donné lui-même, et qui dit aujourd'hui qu'il faut revenir à la discussion, à mon avis, apporterait des garanties de sécurité de part et d'autre pour qu'on puisse faire taire les bombes. Et ça doit être la priorité.
Sur les oligarques, ils le sont, hein, visés, ciblés.
Ouais, enfin, et sanctionnés. Il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, par exemple, en France, je crois qu'on a juste saisi un yacht à La Ciotat. Comme disait Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière, faites le tour de l'union départementale CGT du coin, ils vont vous dire où se trouvent
les... Bien sûr, mais il y a des procédures malgré tout.
Il y a beaucoup à faire. Et c'est là-dessus qu'il faut d'abord appuyer. Parce que par ailleurs, les sanctions économiques tous azimuts, elles ont aussi des effets sur le peuple russe lui-même. Et il ne faudrait pas solidariser davantage le peuple russe avec le choix de Vladimir Poutine de faire la guerre. Et puis par ailleurs, ces sanctions économiques, elles n'ont jamais fait preuve d'une grande efficacité. Les sanctions économiques ne sont pas venues à bout de Cuba, que je sache, pas au bout du régime iranien non plus. Et la dernière fois contre la Russie, ça nous a coûté, pour nos agriculteurs,
alors
8 milliards d'euros.
Alors c'est sans issue, Adrien Quatennens.
Si, justement, l'issue, c'est accroître la pression sur les oligarques essentiellement. Isoler Vladimir Poutine de la clique autour de lui qui fait son pouvoir. Pour que ces gens se disent, mais est-ce qu'on a encore intérêt à suivre Vladimir Poutine qui fait le choix de la guerre ? Et qu'alors une solution diplomatique puisse avoir lieu, parce que le plus important, c'est en effet de faire cesser les bombes.
Alors, Joe Biden qualifie Vladimir Poutine de criminel de guerre. Boris Johnson dit qu'il n'y a plus de réconciliation possible entre le camp de la dictature et de la démocratie. Emmanuel Macron refuse d'utiliser de telles formules pour garder le canal diplomatique ouvert. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de ne pas utiliser de telles formules ?
En toute hypothèse, faire le choix de la diplomatie est le bon choix. Alors après, il y a des tas de problèmes et des erreurs qui nous ont menés à la situation dans laquelle nous sommes. Tout le monde comprend que dès lors que la France reste alignée, c'est-à-dire dans le cadre de l'OTAN, quand M. Poutine reçoit M. Macron, même de l'autre côté de la table, il sait qu'il n'a pas en face de lui quelqu'un qui a les clés du conflit entre les mains. On se souvient d'ailleurs des propos de Joe Biden qui étaient assez contradictoires avec la volonté de désescalade affichée par Emmanuel Macron lorsqu'il s'était déplacé à Moscou. Bon, après, comment le qualifier ? Moi, je regarde comme vous les images et ce que l'on voit des bombardements. S'il y a des crimes de guerre, il s'agit de qualifier, en effet, Vladimir Poutine de criminel de guerre, si c'est avéré, en effet.
Mais on peut discuter avec quelqu'un qu'on a au préalable qualifié de criminel de guerre. C'est une question pragmatique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Vous dites guerre et diplomatie vont ensemble, et on le voit bien. Est-ce qu'en le traitant ainsi, on peut espérer aussi une issue ? Parce que c'est ça le...
Mais de toute façon, il s'agit de dire une chose. Quand on dirige un grand pays comme la France ou qu'on aspire à le diriger, sur la scène internationale, il y a deux éléments qui doivent dicter nos actions. Le premier, c'est la paix Et la paix, d'ailleurs, ce n'est pas un état de fait hein, qui se constate. La paix, c'est une construction politique, patiente, méthodique. Et le deuxième élément, c'est les intérêts des Français à maintenir. Et quels que soient les régimes avec lesquels nous avons à discuter, il y a beaucoup de régimes avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Et pour autant, il faut maintenir la relation diplomatique. Donc, il ne faudrait pas, en effet, la rendre impossible. Je vois que les États-Unis qualifient Vladimir Poutine de criminel de guerre. On n'a pas vu que les États-Unis aient signé la convention sur ce sujet, parce qu'eux-mêmes ont régulièrement été accusés. Bon, s'ils l'ont signé, eh bien, à ce moment-là, en effet, tout criminel de guerre, quel qu'il soit, de toute façon, doit être jugé. Voilà, ça c'est le béaba et ça doit être une loi commune de l'humanité.
Vous avez parlé, Adrien Quatennens, des intérêts des Français, de la France. Dans cette situation de guerre, le réflexe de conserver le président en place est réel. Certains appellent ça le réflexe drapeau, faisant croire à certains que cette présidentielle pourrait être pliée. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ?
Moi, ce que je dis, c'est que sous aucun prétexte, une élection présidentielle, qui est le grand moment de la démocratie, où nous avons à trancher des grandes orientations pour les 5 prochaines années, ne peut se transformer, quel que soit le contexte, en formalité administrative de reconduction automatique du sortant.
Il y a un risque là ?
Bah, écoutez, en tout cas, c'est la narrative de M. Macron, incontestablement. Quels que soient les grands enjeux que nous avons sous les yeux, la guerre en Europe, les tensions dans le monde, le dernier rapport du GIEC sur le climat qui devrait tous nous alarmer, ou l'urgence sociale dans ce pays. D'ailleurs, vous aurez noté que l'inflation n'a pas attendu la guerre pour commencer. Hein. Donc la question des prix et des Français qui sont serrés à la gorge aujourd'hui est une grande question. Tous ces grands enjeux vont être tranchés lors d'élections présidentielles. Le chef de l'État, c'est aussi le chef des armées. Donc évidemment que le choix des Français dans quelques semaines va nous engager, y compris sur la scène internationale.
Quand nous disons que la France doit être non alignée... Sentiment que pour lui, la présidentielle serait enjambée.
Écoutez, voir M. Macron, président dont on a dit qu'il était disruptif, je crois, moderne, quelqu'un qu'on connaît plutôt, aimant le panache et la confrontation des idées. Très franchement, le voir courir dans les jupes de ses prédécesseurs, Mitterrand, Chirac et les autres, pour dire « Ah ben les autres n'ont pas débattu, donc moi non plus », j'ai envie de dire que ce n'est pas très original. Certes, les autres ne l'ont pas fait, ça ne l'empêchait pas, s'il le souhaitait, de le faire. Et je crois que tout le monde comprend que la démocratie est vital s'il y a de la confrontation des idées. Enfin, on a inventé un mode de règlement de nos désaccords. Là où avant, on règle nos désaccords par les coups de bâton, aujourd'hui, c'est les arguments et les bulletins de vote. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de la confrontation politique. Quand vous voyez une émission comme celle à laquelle on a eu droit là, il y a quelques jours, où M. Macron pose ses exigences de ne pas croiser ses adversaires, d'avoir tout le monde en randonnion, chacun dans son couloir, je crois que ce n'est pas bon pour la démocratie. Il y a besoin de débats d'idées, de confrontation des idées. C'est
un président, un président candidat qui est autour de 30% dans les intentions de vote selon les sondages, alors que son prédécesseur François Hollande n'avait même pas pu se présenter, ça dit quoi selon vous ?
Ben, ça dit en tout cas une chose. On est à, je crois, 20 jours de l'élection présidentielle. Je crois qu'on peut se dire qu'à 20 jours de l'élection présidentielle, il apparaît qu'Emmanuel Macron sera au second tour. Et donc, la question qui est posée pour les 20 jours qui restent au peuple français...
C'est qui est en face ?
Évidemment. Et donc là, de ce point de vue, je me souviens d'une enquête d'opinion qui disait encore, il y a quelques mois, que 80% des Français ne voulaient pas revoir l'affiche pitoyable et le débat nullissime, il faut bien le dire, que nous avions eu en 2017 entre M. Macron et Mme Le Pen.
Et pourtant, et donc, les sondages les placent aujourd'hui, l'un qualifié d'office, évidemment, second tour, et l'autre, Marine Le Pen, aussi. Donc, soit vous nous dites qu'il y a une distorsion réelle dans les sondages qui vous place aussi dans une bonne dynamique, soit eh bien, les Français sont vraiment paradoxaux.
Non, mais incontestablement, les sondages, notamment du fait de la méthode, parce que les sondeurs ont la trouille de ne pas savoir quantifier l'abstention. Donc, à cette méthode, vous savez, on pose deux questions aux sondés. Pour qui avez-vous l'intention d'aller voter ? Et à cette heure, quelle est sur une échelle de 1 à 10 votre niveau de certitude d'y aller. Et si vous n'êtes pas entre 8 et 10, on vous exclut du panel. Vous avez des sondeurs qui ont des panels de 2000 et qui présentent des résultats avec 1000. Évidemment que ça exclut de fait toute une partie de l'électorat populaire qui, à cette heure, hésite encore. Des gens à qui il s'agit de dire, d'ailleurs, et je m'adresse à eux depuis votre antenne, certains disent, vous savez, ça ne sert plus à rien d'aller voter. Et ils ont 1000 raisons de penser ça. Ils ont été trahis, on leur a fait des promesses qui n'ont pas été respectées. Mais moi, je leur dis, écoutez, vous croyez vraiment que ça ne sert à rien d'aller voter ? Alors pourquoi ceux d'en face, ils y vont ? Parce que les électeurs de M. Macron, eux, ils vont y aller. Eux, ils ont déjà mis le réveil matin pour le 10 avril, parce qu'ils en ont pris plein les poches des mesures fiscales de M. Macron. Ils se sont beaucoup enrichis. Et donc, vous ne devez pas laisser votre voix passer. Il faut y aller. Et désormais, oui, la grande question qui est posée, c'est quel second tour ? Et je crois qu'il y a un tiercé qui se dégage. Est-ce que c'est M. Macron, Mme Le Pen, c'est-à-dire un mauvais remake de 2017 ? Ou est-ce qu'on impose, parce que celui-là, il ne pourra pas l'éviter, M. Macron, le débat de second tour ? Une confrontation sur les grands enjeux et ce qui intéresse les Français, les salaires, on les augmente ou pas ?
Mais justement, quel sens de l'affrontement de second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ? On le sait pour Éric Zemmour, on le sait pour Marine Le Pen, mais pour Jean-Luc Mélenchon, quel est le sens de cet affrontement ?
Ben, je crois que le sens, il est au cœur des préoccupations des Français, Mathieu Bock-Côté. Vous savez que la question, par exemple, du pouvoir d'achat, ça reste la question centrale. Donc, il y a quelques enjeux assez simples qui permettent même presque de traduire ce débat de second tour comme une sorte de référendum. Les salaires, on les augmente avec Jean-Luc Mélenchon, le SMIC, par exemple, ou on ne fait rien avec M. Macron.
Alors, vous savez que sur ce point,
pardon de vous dire, Sonia Mabrouk, que dans le trio de tête aujourd'hui, si, nous sommes les seuls. Madame Le Pen, elle refuse d'augmenter le SMIC, elle ne veut pas dégeler le point d'indice des fonctionnaires. C'est l'autre candidate des riches, hein, Madame Le Pen. Si vous regardez un peu son discours économique, bon, c'est du Macron repeint en bleu marine.
C'est difficile, hein, sur la retraite à 60 ans.
Mais surtout sur la question...
Madame Le Pen qui propose la retraite...
Mais elle ne la propose plus. Évidemment, elle ne la propose
elle
plus.
Elle n'avance pas pour
mais
tous.
Non, mais donc c'est une clarification utile pour celles et ceux qui nous écoutent. C'est que si vous voulez la retraite à 60 ans, le seul bulletin de vote qui le permet, c'est le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon. Madame Le Pen a capitulé en race campagne sur cette question de la retraite à 60 ans.
Elle a amendé son projet.
Alors qu'un quart des plus pauvres sont déjà morts à 62 ans. Voilà la réalité dans notre pays.
En tous les cas, ce sont deux visions de la société très différentes avec Emmanuel Macron sur la retraite, le pouvoir d'achat. On va décliner cela. Vous allez nous dire aussi comment, en quelques jours, vous comptez justement amplifier cette dynamique autour de votre candidat et d'autres questions à venir. Une courte pause et on se retrouve.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et ce sont deux invités que nous recevons ce grand rendez-vous dimanche. Dans quelques instants, ce sera Marion Maréchal, soutien d'Éric Zemmour. Mais tout d'abord, on poursuit cette émission avec vous, Adrien Quatennens. Le pouvoir d'achat, évidemment, essentiel, qui prend une place conséquente dans cette élection. La Belgique, et là je parle des prix de l'énergie de manière générale, vient de décider de repousser de 10 ans sa sortie du nucléaire prévue en 2025 pour garantir, disent les Belges, son indépendance énergétique. Est-ce que vous dites que les Belges sont pragmatiques? Et heureusement que la France a fait de bons choix énergétiques.
Non, je ne le crois pas. Bon, d'abord, si vous me permettez, sur la question de la hausse des prix, plus important encore que de discuter du mix énergétique, on va en parler.
C'est lié.
Bien sûr que c'est lié.
Vous pouvez juste réagir à ma question, quand même, c'est important, un tel changement de la trajectoire.
Je vais réagir si après on parle de ce qu'on fait pour les prix en général.
C'est lié.
Mais sur la question du nucléaire, bon, je pense que ce débat-là peut être débarrassé d'idéologie en France, pour une raison. C'est que, sans faire grief à ceux qui nous ont précédés et qu'on fait un choix singulier pour la France, de tout miser sur le nucléaire. Un choix qui, il faut le dire, a permis un essor économique, a permis une énergie à bas coût, etc. Bon, aujourd'hui, nos centrales, notre parc nucléaire, il arrive à échéance. Il a été programmé pour un certain temps, il arrive à échéance. Donc la grande question qui est posée, c'est dans quoi on investit pour le futur? Est-ce qu'en effet, on mise à fond sur le nucléaire et donc nécessairement, par nature, j'ai envie de dire, on en prend pour des générations? Vous savez que les déchets radioactifs, dont d'ailleurs nos capacités de stockage en France arrivent bientôt à leur maximum en 2030, on parle de centaines de milliers d'années, d'accord? Donc je pense qu'il faut avoir un débat pragmatique sur le sujet. D'abord, l'argument économique. Aujourd'hui, le coût des énergies renouvelables, pour le peu qu'on y investisse, en effet, il est largement plus compétitif que le coût du nucléaire. Enfin, Sonia Mabrouk, un seul exemple. Regardez par exemple Flamanville. C'est 17 milliards de surcoût. C'est pas terminé. C'est des années de retard. Il n'y a toujours pas un EPR qui fonctionne. Mais par contre, M. Macron, il va en mettre partout.
Dans le rapport RTE, pardonnez-moi, le scénario qui prévoit ce que vous prévoyez est beaucoup plus coûteux que le scénario actuel si on continue dans notre trajectoire de
conserver. Coûteux, c'est clair. En attendant, sur la question
de coût.
Sur la question de la comparaison entre le coût du nucléaire, pour le peu qu'on y intègre tout en plus, Sonia Mabrouk, y compris le coût du démantèlement, parce qu'il y a des éléments sur lesquels on ne demande pas de prévoir, y compris ces coûts-là. Si on intègre tous les coûts, c'est plus compétitif. Premier argument. Mais pour moi, supporter que...
Mais il n'est pas le seul, Emmanuel Macron, sur le nucléaire. À gauche, vous avez le candidat communiste, Fabien
Roussel,
qui
bien
est
sûr.
Sur la même ligne.
Bien sûr.
Et
la dernière fois, d'ailleurs, ça ne nous a pas empêché de faire campagne ensemble. On avait traité la question en disant on pourra soumettre cela à référendum.
Mais
pourquoi pas?
Fausse route.
Mais si juste je pouvais terminer d'argumenter. Il y a la question des prix, première question. Deuxièmement, il y a la question du climat. On dit souvent, oui, c'est bas carbone, donc c'est bon pour le climat. Et a priori, ça tombe sous le sens. Sauf que désormais, on voit les phénomènes extrêmes climatiques qui se produisent. Par exemple, la montée des eaux. Sonia Mabrouk, si vous regardez une carte de France en 2050 sous les effets de projection de la montée des eaux, vous avez des centrales nucléaires qui seront les pieds dans l'eau. Alors moi, je veux bien que vous me donniez ce matin votre numéro de téléphone pour que le jour où on a un problème, on vous appelle pour savoir comment vous faites.
Moi, je veux bien vous le donner maintenant, parce qu'on a déjà un problème maintenant d'indépendance énergétique. Aujourd'hui, on voit bien que, heureusement, qu'on a le nucléaire en France, Adrien Quatennens, et c'est lié au prix, vous le savez bien. L'Allemagne se retrouve dans une situation compliquée. Les Belges changent complètement de paradigme.
Mais vous savez où on va chercher l'uranium. Vous ne pouvez pas parler d'indépendance énergétique de la France.
Mais on diversifie nos sources, l'uranium. Maintenant,
bien
c'est
sûr.
En Afrique,
écoutez,
Canada. Et
je vais essayer de résumer notre position. Donc, il y a la question économique, il y a la question du climat, mais il y a aussi, regardez, que se passe-t-il actuellement en Ukraine? La guerre, c'est ça? Avec combien de réacteurs nucléaires sur le sol ukrainien? Et on a bien vu que, y compris le nucléaire civil, pouvait être une cible. Donc quand Jean-Luc Mélenchon disait « attention, le nucléaire civil peut aussi être une cible » et que certains le moquaient, on voit que c'est une réalité. Donc pas de dogmatisme sur le sujet. Personne ne dit qu'on va sortir du nucléaire demain matin. En revanche, dire « on prend une décision politique ». C'est de se fixer un horizon par lequel on sort. Vous avez cité le RTE, même si c'est un scénario ambitieux, avec vous j'en conviens. Mais par contre, techniquement, il est validé. C'est possible, techniquement.
Très compliqué.
Oui, mais très compliqué. J'ai envie de vous dire, le nucléaire, c'est un brouc. Le nucléaire, très compliqué aussi. Le retard sur Flamanville, les surcoûts, les déchets, qu'est-ce qu'on en fait ? Très, très compliqué. Les centrales avec les pieds dans l'eau. Donc, ce n'est pas un choix idéologique, c'est un choix, en effet, de raison. On peut aller vers le 100% d'énergie renouvelable, comme d'ailleurs le souhaite, je l'ai noté, 74% des Français sont favorables au 100% renouvelable, comme objectif. Et ça va se faire d'ailleurs avec les salariés du nucléaire. Nous, on souhaite apporter une garantie d'emploi.
Est-ce qu'il faut une indépendance
Mais l'indépendance, tout le monde est d'accord, sauf qu'aujourd'hui, le nucléaire, mais ou alors on pourrait y passer longtemps, mais le nucléaire n'est pas une source d'indépendance énergétique aujourd'hui. La France ne produit pas d'uranium.
Oui, mais...
Et puisqu'on parlait tout à l'heure de quels régimes avec lesquels on discute, regardez un peu les régimes avec lesquels...
Force est de constater qu'on
est beaucoup plus indépendants.
Écoutez, nous pensons en tout cas, c'est notre souhait, que la France peut être aux avant-postes d'une grande bifurcation et notamment à travers la planification écologique d'aller vers 100% d'énergie renouvelable.
Les prix.
Alors, sur l'énergie...
Qui ont augmenté, il est vrai, vous l'avez dit, bien avant la guerre, mais là, ça prend évidemment une toute autre tournure. Vous avez un projet là-dessus. Je voudrais vous faire réagir aux dernières décisions du gouvernement qui met en place un véritable bouclier. Alors là, vraiment, les milliards pleuvent. Est-ce que vraiment, vous dites, ce n'est pas suffisant, rien n'est fait ?
D'abord, il y a une chose, y compris sur l'énergie. Là, on a eu une petite discussion sur le mix énergétique. J'ai envie de vous dire, indépendamment du mix énergétique, il y a une question qui, à mon avis, devrait nous mettre d'accord. C'est la question de, est-ce qu'on laisse faire le marché ou pas ? Parce que la Commission européenne a imposé l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie, alors qu'en France, on avait un modèle intégré où on maîtrisait tout d'un bout à l'autre. Ils sont arrivés, ils ont dit, on fait la concurrence libre et non faussée, les prix vont diminuer. Tout le monde a vu le résultat, avec les factures qui ont explosé. Donc, il faut sortir un certain nombre de domaines
européen.
Du marché.
C'est ce que fait le gouvernement actuel. Il ne laisse pas faire le marché, justement,
Bruno
puisqu'on bloque les prix.
Alors, on bloque les prix, faut regarder ce qu'on fait précisément. Moi, je vais vous dire, il s'agit de dire, en effet, c'est ce que nous proposons avec Jean-Luc Mélenchon, que le marché, la loi de l'offre et la demande, ça produit une anarchie complète. On le voit là. Et donc, quand on parle de blocage des prix, il faut dire ce qu'on souhaite. Ce n'est pas donner une petite obole de 15 centimes par litre d'essence. Comme le fait M. Castex.
C'est aussi sur l'électricité, le blocage, c'est sur le gaz.
Mais par exemple, le fait que l'électricité, le prix de l'électricité soit toujours indexé sur le prix du gaz pour de simples effets de marché est un problème. Nous, avec Jean-Luc Mélenchon, ce que l'on souhaite faire, c'est bloquer les prix. Par exemple, le carburant, la première fois que Jean-Luc Mélenchon a parlé de blocage des prix, il était à 1,40. Donc on va le bloquer à la baisse, à 1,40. Et ça consiste à dire que la charge ne va pas reposer ni sur le client à la pompe, ni sur le contribuable, mais y compris sur les pétroliers. Parce qu'il faut dire aussi les choses. L'essentiel des hausses de prix, elles sont spéculatives. Pourquoi n'augmente-t-on pas la production ? Il y en a qui se frottent les mains, vous savez.
Demandez aux Saoudiens. Vous
savez, quand j'entends certains qui disent qu'il faut absolument l'embargo, par exemple, sur le gaz et le pétrole russe. Mais vous savez qu'il y en a qui se réjouissent de ça. Les Américains, dont le pétrole et le gaz de schiste est rentable à 60 dollars le baril, qui est maintenant à 115, ils viennent voir les Européens et puis ils donnent un petit coup de coude en disant...
C'était lié au nucléaire, vous en parlez. Et c'est pour ça que les Allemands disent impossible.
Donc sur les prix, le blocage des prix. Ensuite, ça c'est une mesure sans doute pas forcément pérenne. C'est une mesure liée à la situation d'urgence maintenant.
On peut vous demander jusqu'à quand, mais il est vrai qu'on ne sait pas quand la guerre se termine.
Non. En revanche, il y a des choses dont je suis sûr, Sonia Mabrouk, c'est que ce pays, la France, produit 2300 milliards de richesses chaque année qui sont très mal réparties. À l'heure où l'on se parle, vous avez 5 personnes, 5 milliardaires, accrochez votre ceinture, qui détiennent à L5 autant que 27 millions de la population, 40% des Français. Donc la question du partage des richesses, elle est évidemment un vrai sujet. Augmenter les salaires, c'est-à-dire ça a été beaucoup le temps du capital, c'est maintenant avec nous le temps du travail. Augmenter le SMIC en le portant à 1400 euros net. Faire en sorte que personne, quelle que soit sa condition sociale, n'ait à subir l'humiliation qui consiste à vivre sous le seuil de pauvreté. Vous le savez comme moi, Sonia Mabrouk, des femmes, des hommes qui ont peur d'ouvrir leur boîte aux lettres, qui bossent et qui se demandent s'ils vont pouvoir payer leurs factures, pouvoir offrir quelques loisirs à leurs gamins. La situation de la France, c'est en effet un pays dans lequel les richesses se sont toujours plus concentrées, mais depuis le début du quinquennat de M. Macron,
c'est
400 000 personnes de plus sous le seuil de pauvreté.
Cette étude qui est sortie cette semaine de l'OFCE, qui n'est pas un organisme partisan, et qui dit que c'est sous Emmanuel Macron que le pouvoir d'achat a le plus augmenté par rapport à ses prédécesseurs.
Le pouvoir d'achat pour qui ? Mais
Monsieur
Barré, évidemment qu'il y en a pour qui le pouvoir d'achat a beaucoup augmenté.
Écoutez,
prenons un témoin, celles et ceux qui nous écoutent. Monsieur Barré, par exemple, voyez, les 19 mois de pandémie, C'est 240 milliards de plus dans les poches des milliardaires. Tiens donc, 240 milliards, c'est à peu près le même chiffre que les aides Covid dépensées par l'État. Voyez ? Donc, on ne peut pas tolérer de tels niveaux d'écart. Et le fait que 10 millions de personnes dans ce pays vivent sous le seuil de pauvreté. Enfin, 8 millions qui sont à l'aide alimentaire.
Et c'est l'un des axes majeurs donc, de voilà. votre
donc,
programme.
Donc, augmenter les salaires, faire en sorte que personne ne vive sous le seuil de pauvreté. Et on peut aussi instaurer, en plus du blocage des prix, de la gratuité pour des biens essentiels. Je prends juste un exemple, mais l'eau. L'eau qui est indispensable à la vie. Ce sera bientôt la journée mondiale de l'eau. Et vous savez qu'il y a une grave crise de l'eau à travers le monde. Eh bien, on pourrait imaginer, et nous le souhaitons, c'est dans le programme, que les premiers mètres cubes d'eau qui sont indispensables à la vie, soient gratuits pour toutes et tous, avec une tarification progressive qui ferait que, par exemple, l'eau qui sert à laver sa voiture ou à remplir une piscine coûte plus cher permettre à tous de bénéficier des premiers mètres cubes gratuits.
Mathieu Bocoté, une autre question.
Nous rendons hommage aujourd'hui, 10 ans plus tard, aux attentats de Mohamed Merah contre une école juive, contre plusieurs personnes, nous le savons. Plusieurs hésitent aujourd'hui à qualifier cet attentat d'islamiste. Est-ce aussi votre cas ?
Ben non, c'est une évidence. C'est un acte de terrorisme islamiste. Et d'ailleurs, il faut dire les choses, 10 ans après, et c'était avant Charlie Hebdo, c'était avant le Bataclan, on est toujours saisi d'effroi de voir, y compris, que des enfants ont été ciblés au sein même de leur cours d'école pour le simple fait qu'ils étaient juifs. Donc il faut une vigilance accrue à tous les niveaux et faire en sorte de renforcer tous nos anticorps républicains parce que nous ne sommes pas à l'abri. Il y a un devoir de mémoire aujourd'hui. Moi, je pense aux mots de M. Sandler, et je crois que ce sont des cicatrices qui ne se referment jamais complètement.
On va conclure sur ce qui est à venir pour vous. Adrien Quatennens, c'est une marche pour la 6e République, ce sera tout à l'heure. Je voudrais une simple question. Imaginons que l'Assemblée constituante, que vous voulez créer de vos voeux, supprime la fonction présidentielle. Ça veut dire, imaginons que si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, aussitôt, il repart.
Ce qu'il nous faut en tout cas. Bon, d'abord, merci de rappeler ce rendez-vous. Nous avons rendez-vous tout à l'heure à 14h à la Bastille pour cette grande marche. Je crois que, bon, évidemment, c'est pour la 6e République, mais celles et ceux qui vont y participer vont aussi donner à voir leur aspiration à quelques jours du premier tour de voir Jean-Luc Mélenchon qualifié et tous nos espoirs avec face à M. Macron. Écoutez, la constitution de la 5e République, elle a été conçue en 1958. Le temps est beaucoup passé depuis, le peuple a beaucoup changé. Par exemple, à l'époque, les femmes ne pouvaient pas avoir de compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Aviez une majorité des gens qui n'étaient pas raccordés au téléphone. Aujourd'hui, 85% ont une connexion Internet. Bien. Bref, donc il faut créer les conditions que le peuple français puisse se refonder. On parlait tout à l'heure, avant que l'émission démarre, des niveaux d'abstention dont nul démocrate ne peut se satisfaire. Eh bien, il est temps de dire aujourd'hui qu'il faut permettre au peuple français de redéfinir ses droits. Et donc, ce que nous voulons faire, oui, c'est une assemblée constituante qui serait chargée de rédiger un projet de nouvelle constitution pour la France. Nous avons des idées sur ce que nous souhaiterions mettre dedans. Il faut conjuguer la meilleure stabilité des institutions, d'une part, pour pas que ce soit l'Assemblée générale permanente, et en même temps, la capacité d'intervention populaire. Vous voyez, les Gilets jaunes comportaient des revendications démocratiques qui étaient déjà les nôtres dans le programme depuis quelque temps. Mais le référendum d'initiative citoyenne, le droit de révoquer les élus à mi-mandat pour rappeler que les élus n'ont pas un blanc-seing mais un mandat. Voilà ce que nous souhaiterions faire, nous. Par contre, oui, contrairement à d'autres, nous n'avons pas un projet clé en main de 6e République. On va proposer des choses, mais c'est au peuple lui-même de définir ses règles. Je termine juste en vous disant, vous savez, la constitution de 1793, c'était écrit dedans, un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Je crois que le temps est venu.
Peut-être. Les Français restent quand même attachés à la 5e, mais vous proposez donc cette évolution. Merci Adrien Quatennens d'avoir participé
à cette émission.
Merci. Autre invité à présent dans quelques instants, ce sera Marion Maréchal, soutien d'Éric Zemmour. Merci encore, bel après-midi.
Merci à vous.
10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
La seconde partie du Grand Rendez-vous, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous accueillons Marion Maréchal, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être là et la première question vous est posée par Mathieu Bock-Côté.
Alors, Éric Zemmour et plusieurs autres ont longtemps souhaité faire alliance avec la Russie pour délivrer l'Europe de toute forme de tutelle américaine. Il avait le rêve d'une grande alliance avec la Russie. Est-ce que, vu les circonstances, la France et l'Europe occidentale n'est pas condamnée d'une manière ou de l'autre, une forme d'atlantisme de fait pour une bonne période historique ?
Je crois que ce que souhaitait Éric Zemmour, comme une bonne partie de la famille nationale au sens large, c'était s'inscrire d'ailleurs, il le dit souvent, dans la droite ligne du général de Gaulle, c'est-à-dire l'Europe de Brest à Vladivostok, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait à travers le continent un dialogue, en tout cas soutenu avec la Russie qui faisait partie de ce destin commun. Je ne crois pas qu'il faille y renoncer définitivement pour une simple et bonne raison qui a, à mon avis, de nombreux enseignements à tirer de cette guerre russo-ukrainienne. Le premier, c'est l'émergence manifeste d'un monde multipolaire. Puisque l'on voit bien que des pays qui vont compter de plus en plus dans les décennies à venir, je pense notamment au Brésil, je pense à l'Inde, je pense à la Chine, ont refusé de condamner l'intervention russe, ou du moins ne se sont pas prononcés. D'où l'importance, à mon avis, pour la France, si elle veut continuer d'être une puissance entendue et écoutée, de refuser toute forme d'alignement, et ça devrait passer notamment, et c'est ce que propose Éric Zemmour, par la sortie du commandement intégré de l'OTAN, qui permettrait de montrer qu'elle a une diplomatie propre qui n'est pas alignée sur celle des États-Unis, et surtout la perspective de ne pas s'enfermer, de ne pas avoir une voix noyée seulement sur la perspective continentale de l'Union européenne, mais d'être capable d'avoir une diplomatie propre qui ne s'aligne pas non plus sur une pseudo-diplomatie
vous
de
dites,
l'UE.
Vous dites, Marion Maréchal, ce n'est pas Poutine contre le reste du monde, puisque là, vous mettez en avant certaines positions, l'Inde, effectivement, le Brésil, la Chine. Pour vous, ce n'est pas un camp, Poutine contre le reste du monde. Vous soulignez des nuances aujourd'hui.
C'est ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une unanimité de ce point de vue-là, et qu'on se rend compte que donc, le monde multipolaire émerge. Et c'est vrai que je fais le lien avec ce que je viens de vous dire sur la question des conséquences de la défense, de la défense européenne, puisque c'est le grand projet d'Emmanuel Macron pour lequel il est totalement minoritaire au sein de l'Union européenne. Et on voit bien qu'en réalité, plutôt qu'une défense européenne autonome, nous avançons vers un renforcement de la jambe européenne de l'OTAN, avec de l'achat de matériel américain en Pologne, en Allemagne. Ils ont acheté récemment des avions de combat américains plutôt que des avions de combat français. Et donc la réponse, à mon avis, à cela, et face à cet état de fait, c'est que la France redéfende de nouveau une puissance militaire autonome. Il y a un rapport du Sénat qui rappelle tristement que si nous étions dans le cadre d'une guerre de haute intensité, nous n'aurions que 3 jours de munitions. D'où l'importance, à mon avis, avant tout, de se concentrer sur la reconstruction de notre outil militaire afin de pouvoir être respecté et entendu, ce que nous n'avons pas été malheureusement avec la Russie dans cette guerre.
Un dialogue constructif avec la Russie, que vous appelez de vos voeux, est possible avec un Vladimir Poutine au pouvoir? Est-ce que
c'est évidemment extrêmement compliqué, mais ça n'empêche pas qu'il faut aujourd'hui maintenir le lien. C'est ce que souhaitent d'ailleurs la plupart des pays.
C'est ce que
souhaite même d'ailleurs.
Tout à fait.
Et c'est ce que souhaite même le Premier ministre Zelensky, qui a expliqué qu'il souhaitait aujourd'hui pouvoir trouver un point d'accord pour que la paix puisse se dégager. Mais ce que je veux dire par là, et c'est ça qui m'intéresse sur le long terme, c'est que la leçon quand même à tirer de cette guerre, c'est que manifestement la France n'est plus perçue comme une voix indépendante, une voix qui compte. Et je crois que ça tient non seulement au dépeçage de son outil militaire, mais aussi à la manière dont sa diplomatie
est montée. Depuis un certain temps, selon vous, où est-ce que vous...
Depuis un certain temps, ce serait injuste, je pense, de dire que tout revient de la responsabilité d'Emmanuel Macron, mais ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas contribué à reconstituer l'autonomie de cette voix, notamment par les choix qu'il a pu faire dans le cadre diplomatique, puisque, en fait, quand on regarde son bilan, que ce soit sur le Liban, que ce soit sur le Mali, que ce soit sur l'affaire australienne du contrat rompu pour la commande de sous-marins français, c'est quand même un échec de la diplomatie française depuis 5 ans.
Et pourtant, en ce moment, il est le seul à conserver vraiment le canal diplomatique avec Moscou, alors que les Américains utilisent le terme criminel de guerre pour parler de Poutine, les Britanniques disent dictature contre démocratie. Emmanuel Macron, en ce moment, a une posture gaullienne dans les circonstances.
Oui, il tente en effet de maintenir le lien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus considéré comme un interlocuteur crédible. De son fait, mais pas seulement, soyons justes. Et la Russie, en réalité, considère que le seul interlocuteur valable, dès le départ d'ailleurs, et il l'a dit, c'est les États-Unis.
Mais ça, quel que soit le président, on peut se le déplorer.
Ce sont eux qui donnent le là. Oui, mais parce que là, une fois de plus, on en revient à des choix de long terme qui n'ont pas été faits et qui devront être faits demain. Je regrette par exemple qu'à l'occasion du plan de relance qui avait été fait au moment du Covid, on n'ait pas intégré la question de la défense, typiquement, puisqu'on sait en plus de surcroît que c'est vecteur d'emploi, que les innovations militaires alimentent les innovations civiles.
Et on voit bien que là, on réagit dans l'urgence. Le budget de la défense a augmenté sur Emmanuel Macron, pendant toute cette période,
pendant le
quinquennat. Il a nettement augmenté par rapport à la période précédente.
Alors, il a plutôt réduit la baisse, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on a le sentiment qu'on réagit toujours dans l'urgence. C'est ça que je veux dire.
De 34 à 42 milliards.
Je vous donne un autre exemple. Je vous donne un autre exemple de la réaction dans l'urgence. On a un président qui aujourd'hui nous dit « Ah ben c'est terrible, alors que ce soit sur l'énergie ou sur l'alimentaire, on est complètement dépendant d'un certain nombre d'importations, donc sur le plan alimentaire, il faut viser l'autonomie alimentaire. » Parfait, superbe. Sauf qu'il y a encore quelques semaines de cela, Emmanuel Macron et les eurodéputés de LREM votaient l'ensemble des mesures du pacte vert européen, ce pacte vert européen qui met en place à l'horizon 2030 des restrictions écologique extrêmement forte pour nos agriculteurs et dont la conséquence était, c'est une étude d'impact qui le révèle, la baisse de la production agricole européenne de 15%.
Et donc, Emmanuel mécaniquement, Macron a dit qu'il fallait revoir ça lors de sa conférence de presse l'autre jour.
Vous imaginez à quel point, quand même, il y a un manque terrible de vision et de cohérence. Ça veut dire qu'on a un président qui, au moment de sa candidature, va à l'encontre de tout ce qu'il a construit pendant 5 ans. Et c'est vrai sur le nucléaire, c'est vrai sur les retraites. On aura l'occasion d'y revenir.
Marianne Marchal, là, vous dénoncez depuis le début des renoncements, de votre point de vue, des revirements. Comment vous expliquez, entre ce que vous dénoncez, là, on vous entend avec force, et la distorsion? Alors, vous allez me dire, ce sont des sondages, mais malgré tout, c'est une photographie à l'instant T. Une confiance, en tous les cas, des intentions de vote toujours très fortes vis-à-vis du président candidat. Comment vous dénoncez cette distorsion?
Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant. Alors, moult analyses brillantes ont été faites à ce sujet. Probablement, c'est vrai, un réflexe légitimiste dans un moment d'incertitude et de doute. On avait connu cela, souvenez-vous, au moment de François Hollande, à la suite des attentats qui avaient frappé la France. Il avait pris 10 points d'opinion favorable. Je crois aussi que ça tient à une forme d'insaisissabilité, si je puis dire, du président Emmanuel Macron. C'est-à-dire que je le vois à travers notamment la manière dont il a présenté son programme, c'est-à-dire quelque chose qui aussi, entre des grandes déclarations d'intention extrêmement consensuelles qui pourraient aller de Fabien Roussel à Éric Zemmour, et un alignement de mesurettes un peu techniques qui fait qu'il refuse, si je puis dire, le combat idéologique. On est face à une espèce de technocratie centriste qui, sous couvert de pragmatisme, ne permet pas de dégager une vision, un imaginaire national. Et donc, il échappe ainsi au débat. Et chose encore plus surprenante, et qui d'ailleurs conforte l'idée qu'il a peut-être acté lui-même le fait qu'il y aurait de toute façon un déficit de légitimité, c'est qu'il a, je ne sais pas si ça vous a frappé, à l'occasion de son programme, parlé à de très nombreuses reprises de la mise en place d'instances de concertation. Alors, il y a des mots très différents, les états généraux,
notre méthode de gouverner,
les commissions transpartisanes.
A-t-il appris? Est-ce que ce n'est pas l'expérience qui lui fait dire aujourd'hui qu'il faut changer?
Ouais, mais je ne crois pas, parce que exactement, j'allais y venir. C'est quelque chose qu'il avait fait avec la commission, vous savez, transpartisane du climat, c'est quelque chose qu'il avait fait avec le grand débat. Sauf qu'en fait, c'est une vision de la politique très particulière. Ça veut dire qu'on ne dit plus, finalement, le débat, le consensus, c'est au moment de l'élection. On dit finalement « élisez-moi », ça c'est une formalité, puis après on va débattre, et puis après je vais aller consulter les Français. Et ça, c'est quand même la marque d'une dépolitisation dont il est l'incarnation.
C'est intéressant, c'est-à-dire que la consultation permanente du peuple, qui pourrait aussi se faire par d'autres biais comme le référendum, serait une forme de délégitimer l'élection?
Alors, pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que, en fait, ça s'est fait en parallèle de son refus précisément d'aller au débat dans l'élection. Parce qu'il dit « je vais faire plein de commissions, discuter avec tout le monde et débattre », mais dans le même temps, il se fait des échanges théâtralisés avec des Français présélectionnés et choisis. Il refuse de débattre avec les autres candidats. Il rentre extrêmement tardivement en campagne. C'est les deux qui vont ensemble. Ensuite, tout vient de la manière dont sont organisées aussi ces consultations. Parce qu'on se souvient du grand débat, on voit bien que c'est quand même des exercices extrêmement maîtrisés. Au passage, organisés d'ailleurs par le cabinet de conseil américain McKinsey, qui manifestement ne paye pas ses impôts en France.
Qu'est-ce que vous dénoncez? Une grande mise en scène, en réalité?
Voilà,
vous dites que le président n'est pas en train de faire une campagne comme un autre candidat?
Oh ben non, je ne crois pas. Enfin, d'ailleurs, on le voit bien, puisqu'il est le seul à refuser les débats. Au même titre, non, pas tout à fait le seul, puisque Marine Le Pen refuse également de se prêter à l'exercice. Mais on voit bien qu'il ne se met jamais en danger. On est dans une espèce de communication glamour extrêmement contrôlée. Même les journalistes eux-mêmes n'ont pas le droit de filmer les conférences de presse. C'est vous dire quand même où on en est. Et je ne mets pas du tout cela en parallèle, puisque vous avez cité ce mot des référendums. Où là, la référendum, on s'en remet à un exercice qui est, comment dire, qui échappe totalement à la communication et à la maîtrise du pouvoir.
Mais cela dit, un moment de bascule qui a eu lieu il y a quelques semaines, c'est-à-dire dans la rhétorique, dans la communication d'Éric Zemmour, il y avait cette idée qu'il disait « je suis le seul à pouvoir battre Emmanuel Macron au deuxième tour ». Et là, on vient de basculer, hein. J'ai peut-être encore une chance d'être au deuxième tour. Est-ce que finalement, Éric Zemmour se bat désormais non plus pour être président, mais meilleur opposant?
Non, je crois pas, mais le problème, c'est que si vous voulez, aujourd'hui, c'est vrai que la campagne, la guerre russo-ukrainienne a écrasé malheureusement le débat, et Éric Zemmour était parti avec l'intention, ce qu'il a réussi assez longuement d'ailleurs, à imposer le sujet civilisationnel comme le sujet central, vital de la campagne, qui aujourd'hui semble passer au second plan, comme si finalement il y avait une compétition du sujet et non pas une accumulation des crises.
Comme
plutôt qu'une annulation.
Marion Maréchal, les gens se soucient avant je ne suis pas démagogique en disant ça, de leur facture, avant de se soucier de l'horizon civilisationnel. Et ce n'est pas d'ailleurs antinomique.
Non, mais alors moi je ne crois pas du tout à cela. Je pense qu'une majorité de Français aujourd'hui pensent tout à la fois à la fin du mois et à la fin de la France. Et d'ailleurs, je pense que c'est d'autant plus vrai, oui, je pense pour la question civilisationnelle, c'est-à-dire identitaire, mais je crois que c'est d'autant plus vrai que les sujets sont liés pour deux raisons. La première, c'est que, un, c'est justement les Français les plus précaires, les plus modestes, qui sont les premières victimes des conséquences de l'immigration massive, que ce soit sur le plan culturel ou sécuritaire et économique. Et justement, que penser, si vous voulez, cette question économique et du pouvoir d'achat sans penser la question migratoire, à mon avis, est une erreur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si notre État stratège, si notre État régalien avec ses services publics, si le pouvoir d'achat avec les taxes et les impôts s'effondre, c'est parce que nous portons à bout de bras un État social ruiné par l'ouverture au monde entier. Et je rappelle à ce titre, d'ailleurs, une étude qui a été faite par Jean-Paul Gourevitch pour Contribuables Associés, qui explique qu'aujourd'hui, l'immigration coûterait à peu près 40 milliards d'euros par an, c'est-à-dire quasiment un tiers de notre déficit public.
Vous allez continuer à en parler,
Décorréler les deux, en fait, est une absurdité. Je crois que c'est ce qu'essaye de dire Éric Zemmour.
Vous allez continuer à nous l'expliquer, parce que Marine Le Pen, en tous les cas, évoquait très tôt les questions de pouvoir d'achat, d'ailleurs se présentant comme la candidate du pouvoir d'achat. Est-ce qu'elle n'a pas eu un sens politique, le flair, justement, d'aller sur ces sujets-là, bien plus qu'Éric Zemmour? On vous pose la question dans quelques instants, une courte pause et on se retrouve.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et avec notre invitée Marion Maréchal, vous avez insisté sur deux problématiques évidemment. Dites-vous la fin de la France et la fin du mois. Il faut reconnaître à Marine Le Pen que très tôt elle a parlé de la fin du mois. Est-ce que vous lui accorder ce sens politique, oui, j'imagine. Et est-ce qu'il aurait fallu, pour vous, justement, pour l'équipe d'Éric Zemmour, aller davantage sur cette problématique, évidemment, très prégnante aujourd'hui ?
Alors, ce que je crois, c'est qu'elle est absolument fondamentale et que, depuis, Éric Zemmour a quand même présenté un programme extrêmement ambitieux en la matière, puisqu'il est pour rendre près de 22 milliards de pouvoir d'achat aux Français et, en parallèle, 36 milliards rendus pour la compétitivité des entreprises. Donc, je crois que là-dessus, il n'y a pas de mauvais procès à faire. Mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, les circonstances, et c'est malheureux, une fois de plus, d'y arriver par la force des choses, les circonstances, notamment sur le prix de l'énergie, font qu'il y a un relatif consensus dans la vie politique française sur la nécessité de s'emparer de cette question du pouvoir d'achat. Même si les réponses peuvent évidemment varier et être plus ou moins efficaces. Néanmoins, il y a quand même un sujet sur lequel il n'y a pas de consensus avec Emmanuel Macron, c'est précisément la question de l'immigration. Et permettez-moi d'insister parce que peut-être en particulier pour les électeurs de droite qui seraient tentés de voter pour Emmanuel Macron, ce président est le président de l'immigration massive comme on n'a peut-être jamais eu. Enfin, j'ai quelques chiffres en tête, mais imaginez quand même que Emmanuel Macron, c'est moins 13% d'éloignement que sous le quinquennat de François Hollande. Emmanuel Macron, c'est un record absolu de délivrance de titres de séjour pour des personnes extra-européennes, c'est-à-dire près d'1 200 000 sur le quinquennat. C'est un homme qui a augmenté le budget de l'immigration de plus de 48% entre, si je ne m'abuse, 2018 et 2022. C'est 30 000 clandestins régularisés chaque année. C'est un record de demande de droit d'asile. Et ça, si vous voulez, personne n'en parle. Donc là-dessus, il n'y a pas de consensus.
Mais justement, dans la rhétorique d'Éric Zemmour, il y a cette idée qu'il y a une urgence démographique, une urgence civilisationnelle. Il y a aussi cette petite musique qui dit « c'est maintenant ou jamais ». Autrement dit, si Éric Zemmour perdait la présidentielle dans quelques semaines, est-ce qu'on pourrait dire que c'est tout simplement trop tard désormais ? Vaudrait-il la peine de poursuivre la bataille si c'est trop tard ?
Non, jamais. Déjà, il n'est jamais trop tard, parce qu'il n'est jamais trop tard pour essayer. Ça, c'est certain. Bon, c'est vrai que moi, je viens d'une famille politique où il y a eu un peu par le passé cette rhétorique du trop tard, mais du trop tard. Donc, je ne crois pas que ce soit la dernière élection, et fort heureusement, dans laquelle les Français puissent se positionner. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est que je crois qu'Éric Zemmour est particulièrement animé, et c'est mon cas aussi, c'est le cas de tous ceux qui le suivent, par une urgence qui est celui d'une espèce de course à la montre démographique. Et là, je vais vous parler cash, c'est-à-dire que ce que je crois, c'est que je reprends en ce titre d'ailleurs les projections faites par Michèle Tribala, hein, qui explique elle-même, qui est une démographe connue et reconnue dans son domaine, qui explique que si nous continuons sur cette courbe, eh bien, il se peut que d'ici 2060, c'est-à-dire après-demain, je le connaîtrai, ma fille le connaîtra, ce qu'on appelle le peuple historique, les natifs, soient minoritaires sur le sol français. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence, ça ? Disons-le clairement, c'est-à-dire que demain, nous pourrions avoir une France africaine, disons-le comme ça, les cultures africaines sont tout à fait respectables, mais une France africaine qui porterait le même nom, France, mais qui ne serait plus la même personne, c'est-à-dire plus avec les mêmes cultures,
on vous entend
les
sur
mêmes
cela.
Mœurs, le même c'est ce que, rapport au monde.
Ce que dénonce depuis longtemps Éric Zemmour, et vous vous dites, c'est très grave, voici le danger. Et quand on voit les sondages, qui ne sont qu'une photographie à l'instant T, alors on ne va pas parler des baisses ou des hausses, mais force est de constater qu'Éric Zemmour s'éloigne un peu des portes du second tour. Comment vous expliquez alors, si vous dites que c'est vraiment un grand danger, qu'une partie des électeurs, et même de droite, puisque certains pourraient voter pour Emmanuel Macron, ne sont pas aussi éveillés, alors que vous, sur ce danger que vous, vous dénoncez. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que ça vient de vous ? Est-ce que c'est les doutes dans votre camp ?
Je ne crois pas qu'il y ait... Parce que bon, le procès en image et en personnalité, on l'avait fait en son temps à Jean-Marie Le Pen, on l'a fait à Marine Le Pen, aujourd'hui on le fait à Éric Zemmour. D'ailleurs, je pense que si Éric Zemmour est probablement le plus attaqué, le plus combattu dans cette campagne, c'est peut-être parce que c'est lui qui représente la plus d'incertitude et donc la plus grande menace, alors que malheureusement, en ce qui concerne Marine Le Pen, d'une certaine manière, deux élections présidentielles se sont déjà passées, elles ont déjà été perdues, et donc le scénario semble écrit à l'avance, ce qui n'est pas le cas pour Éric Zemmour, qui a dans ses poches un certain nombre d'atouts, comme le fait de fragiliser très généralement le cordon sanitaire. Avec la possibilité d'avoir des élus.
Franchement, de remettre LR en cause l'élection d'avril prochain, quand on voit là encore, je m'y appuie, les sondages, Marine Le Pen, même si vous dites que le match est presque plié,
oui,
à l'avance.
Oui, à ceci près qu'il y a quand même une victoire symbolique extraordinaire qu'a obtenue Éric Zemmour et dont on a assez peu parlé, mais le fait qu'il y ait quand même aujourd'hui des personnalités comme le président de la délégation au Parlement européen LR, François-Xavier Bellamy, le numéro 2 de LR, Éric Ciotti, ou encore des sénateurs comme Étienne Blanc qui disent en cas de deuxième tour, Macron, Zemmour, je voterai Zemmour. Je veux dire, ça, c'est la fin du cordon sanitaire. Imaginez, dire que c'est la fin des 30 ans, des interdits moraux posés par la gauche entre les droites. Et ça, aucun autre candidat n'a cet atout.
Mais Marion Maréchal, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu quand même par le fait que, ayant rejoint Éric Zemmour, vous n'ayez pas permis d'inverser la courbe des sondages ?
Mais j'ai jamais imaginé, à moi toute seule, de toute façon, inverser la courbe des sondages. Et je l'avais dit avant même de rejoindre. C'est une dynamique, c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble d'éléments. Et je ne suis pas venue, de toute façon, pour être la baguette magique. Je suis venue parce que j'estime qu'il y a des convictions à défendre et que j'ai vu en Éric Zemmour cette capacité de rassemblement que j'appelle de mes voeux depuis longtemps. Voilà. Et je vois sa cohérence, je vois sa vision. On parlait tout à l'heure de la course dans la montre démographique. Il parle beaucoup de la question de l'islam. Évidemment, si demain, et ça va avec cette course de la montre démographique, si demain l'islam est majoritaire dans notre pays, il faut que les Français comprennent également que cela aura des incidences sur ne serait-ce que l'égalité homme-femme.
Vous n'êtes pas une baguette magique, mais vous avez quand même un peu amendé la position du candidat à ce sujet, puisque vous refusez de faire l'amalgame, en tous les cas, de mettre un trait d'égalité entre islam et islamisme. Et est-ce qu'en cela, des positions comme la vôtre permettent peut-être d'atténuer certaines polémiques ou certaines positions jugées par certains trop radicales d'Éric Zemmour ?
Alors, moi, je suis venue, et c'est d'ailleurs ce que j'ai demandé à Éric, en voulant la certitude de pouvoir garder ma liberté de ton, de parole et de pensée.
Chose que vous faites. Hein.
Chose, évidemment, que je vais continuer à faire et qu'il m'a tout de suite accordé parce qu'il a dit, moi, je ne vais pas jouer au cap au chef et au contraire, je veux que toutes les sensibilités puissent s'exprimer. Chose que je n'ai pas toujours connue par le passé et c'est heureux. Donc, c'est vrai que sur cette question de l'islam et de l'islamisme, je ne l'aurais pas formulé comme lui l'a formulé.
Est-ce que vous êtes arrivé à le convaincre ? Votre position, mais la question, c'est l'influence que vous avez sur lui, sur ce sujet quand même d'importance.
En réalité, je crois que fondamentalement, il n'y a pas une différence majeure, mais je crois que lui, il voit... parce qu'en fait, la conséquence, c'est de dire qu'il n'y a pas de différence de nature, il y a une différence de degré, d'une certaine manière. Moi, ce que je dis, c'est que de dire que l'un et l'autre n'ont rien à voir est absurde, puisque ce sont les mêmes textes sacrés, et que les djihadistes sont évidemment ce qu'on appelle des musulmans radicalisés. Mais par ailleurs que ça se confond totalement,
ne sont pas
évidemment, évidemment que l'islamisme est une lecture fondamentaliste et violente de l'islam. Néanmoins, là où je le rejoins, c'est qu'indépendamment de la question de l'islamisme, la question d'un islam demain majoritaire en France aurait des conséquences très importantes, puisque partout où l'islam est majoritaire, à quelques exceptions près, la charia est plus ou moins appliquée, avec des conséquences directes sur la vie des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc là, Éric Zemmour, et c'est aussi pour ça que je suis avec lui, et j'en finis par là, est le seul à le dire. Pourquoi ? Parce que je vais vous donner une information, mais même le premier conseiller de Marine Le Pen, dans une interview à un média Livre Noir, explique que si demain l'islam est majoritaire en France, ça ne poserait pas de difficultés. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc, je crois qu'il y a la question...
Vous parlez de Philippe Olivier.
Voilà, il y a la question de l'islamisme et du fondamentalisme qui, là, évidemment, nous menace physiquement dans notre intégrité, et on a encore des exemples récents dans l'actualité. Et puis, il y a la question plus générale de l'islam culturel et de sa dimension politique qui, une fois majoritaire sur le territoire, aura des conséquences.
Ça nous amène à l'hommage aujourd'hui, évidemment, 10 ans après les attentats de Toulouse. Si on vous pose la question sur l'islam et l'islamisme, c'est que parmi toutes ces victimes et familles de victimes, on l'a entendu ce matin sur Europe 1, il y a la mère du militaire Latifa Ebenziaten qui est musulmane. C'est pour ça qu'évidemment, cette distinction prend tout son sens et qu'elle est essentielle.
Évidemment, et c'est d'autant plus important que, en l'occurrence, et son fils en était l'une des démonstrations. C'est ce que je crois, c'est que ces musulmans assimilés et patriotes sont les premiers à vouloir un combat ferme et intense face à l'islamiste qui les menace eux aussi, preuve en est. Et qui seraient d'ailleurs les premiers à souhaiter que la France reste aussi la France dans ce qu'elle a, de singulier sur le plan culturel, dans son art de vivre, dans ses goûts et dans ses croyances. Si ces personnes sont venues aussi en France, première, deuxième, troisième génération, c'est aussi parce qu'ils sont partis de leur pays d'origine et qu'ils sont venus chercher justement cette identité française singulière. Donc moi, je suis sûre que ce sont des alliés dans ce combat, j'en ai absolument aucun doute. Et puisque les choses doivent être dites clairement, parce qu'ils sont patriotes, ils sont nos frères de combat et ils sont évidemment les bienvenus.
La conclusion, alors, Mathieu.
Alors, permettez une dernière question sur le grand levier stratégique d'Éric Zemmour, l'union des droites. L'instrument d'Éric Zemmour, c'est l'union des droites. Mais est-ce que dans les faits, d'ici quelques semaines, avec la fracture de côté LR, Reconquête et le RN, qui auraient une rhétorique très violente les uns envers les autres, est-ce que les droites n'auront pas été plus divisées que jamais en avril 2022 ?
Alors déjà, ce que je constate, c'est sur le plan des Français qui annoncent vouloir voter Éric Zemmour. Déjà, il y a une victoire très importante, puisque la moitié à peu près viendrait de l'électorat de François Fillon, la moitié à peu près de l'électorat de Marine Le Pen. Donc déjà, il arrive à abattre ce mur, on va dire, sur le plan électoral. Ensuite, dans ses équipes, on voit bien qu'il a réussi à rassembler, malgré tout, des élus qui viennent, en effet, de LR, du Rassemblement National, des ex-MPF, et encore récemment, le sénateur Sébastien Meurant, qui est arrivé il y a deux jours. Je vous parlais tout à l'heure de ses annonces de vote. Ce dont je suis convaincue, c'est que lui a à plusieurs reprises manifesté cette volonté d'alliance et de rassemblement. Il est vrai qu'elle est moins présente aujourd'hui chez Marine Le Pen, qui tient des propos extrêmement durs à son égard, du même ordre d'ailleurs que ce que la gauche pouvait tenir à son égard il y a encore quelques mois et quelques semaines, ce qui est quand même assez surprenant. Mais ce que je crois, et c'est ce que doivent entendre les électeurs de droite, c'est que si Éric Zemmour arrive au second tour, si Éric Zemmour peut créer la surprise à ce second tour, derrière, le paysage politique français ne sera plus jamais le même. Alors que si on maintient finalement un duel qui est déjà advenu, ou pire encore, un Mélenchon, je n'y crois pas moi personnellement, mais un Mélenchon-Emmanuel Macron, imaginez qu'in fine, la vie politique restera figée, glacée, comme nous le voyons depuis des années. Et donc je crois que pour remédier à cela, il y a une porte qui a été ouverte, prenons-la. Et en tout cas, moi, je l'ai prise.
On aura l'occasion de le voir dans quelques semaines à présent, puisque tout cela va très vite. Merci Marion Maréchal d'avoir été notre invitée. Deux invités, hein. C'était Adrien Quatennens et Marion Maréchal. Je remercie évidemment Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barret. Et je vous souhaite un très bon dimanche sur nos antennes communes Europe 1 et CNews. Europe 1.